Attendre sans supposer que je reviens plus court sur ce qui s'est passé samedi soir et tout ce qui a suivi, et tout ce qui doit suivre, va suivre. Mais enfin, vous comprenez bien que pas mélanger des niveaux différents. Simplement, je voudrais préciser qu'il y a des correspondances dans le calendrier qui nous dépassent. Mais là, je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout une source traditionnelle. Puisque vous avez rien entendu.
Non.
Alors, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Non, je voulais dire que je ne crois pas qu'il soit, chercher un adjectif, enfin qu'il soit normal de faire des liens arbitraires entre les événements qui se passent dans la semaine. Oui, essayez d'arranger vos chaises qu'il n'y ait pas de brouhaha. Voilà, j'espère qu'on ne va pas être dérangé. Alors, je voudrais redire qu'il n'est pas séant, je ne sais pas comment dire ça autrement, de faire un lien entre les événements que nous sommes en train de vivre et la paracha de la semaine, bien que, suivant la tradition, il y a toujours un lien entre les événements que nous vivons dans une semaine et l'enseignement de la paracha. Je vais simplement me baser sur une source qui n'est pas du tout une source traditionnelle. Je suppose que certains d'entre vous l'ont déjà entendu à la télévision. C'est tout simplement le président de l'Amérique qui, dans son discours de Espagne, a eu la délicatesse de faire ça, très délicatement d'ailleurs, de faire allusion au fait que cette semaine, un des passages principaux de la paracha, c'est Avida Yitzhak. Et alors que, parallèlement, Shimon Peretz s'est trompé de paracha et a cité, bon ça c'est pas grave, mais a cité un verset faux comme d'habitude. Le verset est exact, mais il y avait des fautes d'orthographe. Ni colère, ni péri. À la fin, il s'est dit, voilà, Haritech, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a dit, il est Haritecha. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de ministres ont l'habitude depuis des années, en citant des versets par coquetterie, de les citer complètement détraqués. Et donc je ferai simplement cette allusion, mais ce que je voulais dire en introduction, c'est que l'année dernière, nous avons vécu dans cette semaine ce qui est arrivé à Nachman Waxman Zichron Livracha, pourquoi ne pas se rendre compte qu'il y a une réalité que je voudrais définir très, très simplement en rappelant un des grands principes de la parasha. Nous, on va attendre que tout le monde soit assis, mais vous avez des chaises, ça vous arrive, restez pas paralysé comme ça. Vous voyez ce qui arrive au service de sécurité. Ah. Bien, alors ça y est, top. Alors il y a un grand principe de la parshanout que vous connaissez et que je voudrais expliquer un peu plus en détail, de telle sorte que ce soit bien clair dans ces correspondances qui sont inévitables à faire. C'est Koma Sheira Lahavot Siman Lavanim. C'est un principe qui se trouve dans la parasha, dans le Midrash Tanhuma, chapitre 7, je me souviens bien, et que les grands commentateurs citent toujours, en particulier Nahmani, tout ce qui est arrivé aux pères, et les pères c'est les Avot, les patriarches, c'est la famille d'Abraham, Siman Lavanim, un signe pour leur descendance, pour leurs enfants, pour leurs fils. Ça signifie que le peuple d'Israël, dans son histoire, revit, c'est comme ça qu'on dit en français, revit, à revivre les mêmes péripéties d'existence que celles que la Torah nous a racontées comme carte d'identité de l'identité Israël. Avec cette grande différence, et c'est là que est la difficulté de perception, d'analyse, que les patriarches ont vécu cette histoire à l'échelle individuelle. Abraham, c'est tout Israël en une personne, dans la modalité d'être juste qui était la sienne, chesed. Isaac, c'est tout Israël dans la modalité corollaire de Midat Hadin, d'une seule personne, Jacob de même. Et la Gemara dit très clairement, il n'y a que eux trois qui sont dans ce cas, d'être tout Israël en une seule personne. Ce ne sont pas des sosies. C'est pourquoi le Midrash indique que même physiquement, ils étaient des sosies, parce que c'était tzadikim. La figure, comment dire, le visage. Un tzadik, c'est le visage d'un tzadik. Mais ils ne sont pas des sosies dans la vertu. Abraham, c'est le tzadik de Midat HaChesed. Isaac, c'est de Midat HaDin. Et Jacob, de Midat HaEvel. Mais eux seuls ont eu cette capacité d'être vraiment, ce que je dis, cette expression, je ne peux pas vous citer de source, mais je pense qu'elle est claire, tout Israël en une seule personne, donc leur envergure d'identité. Le Maharal, dans le commentaire que je vous citerai tout à l'heure, y insiste beaucoup, est surnaturel, si c'est nous qui sommes naturels. Si notre manière d'être homme, c'est la manière naturelle d'être homme, leur manière d'être homme est surnaturelle. Ils ont une identité clalite, une identité de la collectivité en une seule personne. C'est un peu le privilège des Yéridim, Yéridesgoula, ceux dont on dit qu'ils sont tout seuls à incarner une Yérida, c'est le niveau le plus haut de la Neshama. J'explique pas les détails, je le dis que pour ceux qui sont déjà un peu au courant, sinon ça me prendrait trop de temps. Mais chez les Yéridim, il y en a quelques-uns par génération, sont un peu de cet ordre d'avoir une Neshama clalite. Mais les avot sont les seuls. Le camarade en brachot dit En avot et la shlosha. Il n'y a de avot que trois. C'est Abraham, Isaac et Jacob. Et ça signifie ceci, c'est que Israël, en tant que société, en tant que collectivité, en tant que peuple, dans l'histoire, j'allais dire parmi les nations, mais ce parmi, il faut bien le définir, c'est pas une parmi les nations, c'est jeté au milieu des nations. À vivre ces péripéties d'existence, cette mise à l'épreuve de l'existence de Olam Hazeh, de ce monde-ci. Quand je dis épreuve en citant des sources juives, ça n'a pas d'abord le sens de vallée de larmes et de douleurs, mais mise à l'épreuve. C'est le même mot, même en hébreu, Nisayon, on va voir tout à l'heure, mais avec une nuance de sens bien précise. Le monde n'a pas été créé pour être un enfer. Le monde a été créé à la limite, peut-être, on pourrait le dire, pour être un, comment dire ça en français, un laboratoire, pour être, non, comment dire, comment on appelle, là où on fait des expériences pour savoir si ça marche, un laboratoire. Et c'est clair, je pense, une mise à l'épreuve. Est-ce que tu mérites d'avoir été créé? Et quand l'épreuve a fini, alors c'est là que commence vraiment l'être réel. Cette existence de mise à l'épreuve, c'est ça, on a masé, mais a priori, c'est pas la vallée de l'âme. Ça, c'est une autre connotation d'une autre sensibilité. Et c'est quand même la vallée de l'âme, mais pas a priori. Je pense que c'est clair. C'est pourquoi le diagnostic des correspondances entre ceux qui ont vécu les patriarches à l'échelle du récit de leur histoire personnelle que nous relisons chaque Shabbat, chaque année depuis des milliers d'années, et d'autre part la manière dont Israël comme société vit les mêmes péripéties, ce diagnostic d'identification ou d'analogie, si vous voulez, est très difficile à faire pour ceux qui ne sont pas initiés aux règles de cette sagesse-là, de cette chokhma. C'est une partie de la connaissance du récit de la Torah qui fait partie de ce qu'on appelle chokhma tanistar, les choses cachées, parce que ce dont elle parle, c'est caché. C'est la chokhma des choses cachées. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compréhensible, mais c'est compréhensible que si on l'étudie, on diagnostique, on y réfléchit avec les catégories de la Kabbalah, pour dire les choses directement. Et sont rares les grands commentateurs qui nous ont laissé leur enseignement au niveau du niglé, pas du tout de la Kabbalah, au niveau de la Torah Shebe'al-Peh classique, si j'ose dire, c'est clair pour tout le monde, mais en formulant leur enseignement en allusion à ces choses cachées. Et en particulier, le plus grand d'entre eux a été Nachmanide, le plus systématique peut-être a été Judas Lévi, et le plus riche, si j'ose dire, un des grands maîtres de la tradition ashkenaz, qui est le Shlach, le Shnei Luchot Abrit. Et si je ne peux que vous renvoyer à eux, il vous faudra un long temps d'études, mais ces études existent. Bref, je referme la parenthèse. C'est une petite introduction sur ce principe. Kolma Sheirar Lavot Siman Lavanim renvoie à toute une science et ne peut pas être laissé à l'arbitraire de diagnostic idéologique ou, je ne sais pas comment dire, enfin vous avez compris, de sensibilité qui par définition est toujours éphémère et contingente. Par conséquent, je vais vous citer un certain nombre de sources. Mais il est bien clair qu'il n'y a pas du tout dans ma pensée de faire une allusion de cause à effet ou d'analogie dans le sens massif entre ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, et le récit de Hakadat Israël, bien qu'on ne peut pas ne pas être impressionné par le parallèle des péripéties. Et simplement, il faut retenir ça. Une fois de plus, nous avons la preuve que cet enseignement qu'on trouve très exploité chez les chassidim, que si on veut comprendre ce qui se passe dans l'existence de la semaine qu'on est en train de vivre, il faut lire la parasha de Shavua avec Rashi. Apparemment, quel rapport, hein? Alors on lit la parasha de Shavua avec Rashi et on comprend ce qui se passe dans les journaux. Et vous imaginez bien à quel niveau de sagesse ça se passe. Bon, je referme là. Vous avez dû avoir, je suppose, c'était tellement évident, au moment de la guerre des six jours, vous avez dû avoir cette expérience. Je ne sais pas si vous étiez déjà adulte à l'époque. Au moment de la guerre des six jours, on avait bien l'impression de lire jour par jour ce qui se passait dans la Haftara, dans la page. Bien. J'espère. Non, restez pas debout, ça me fatigue. Prenez une chaise et assis-vous. Voilà. Et enlève ton soleil, tu vas avoir chaud. Bien, alors je suppose que tous vous avez quand même en tête le récit de la Haggadah d'Israël. Quelques mots très rapides pour définir le titre même de ce récit. En français on dit le sacrifice d'Isaac. C'est complètement faux. Le sacrifice n'a pas eu lieu, c'est pas un sacrifice, c'est une mise à l'épreuve. Et l'épreuve était pour Abraham et pas pour Yitzhak. Le verset dit, le premier verset du chapitre 22, il arriva après les événements précédents, on a beaucoup étudié cette expression, qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est simplement une indication de succession avant et après, dans l'ordre des événements? Ou est-ce qu'il y a ici le principe d'une relation de cause à effet? Ce qui s'est passé avant est cause de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire la mise à l'épreuve d'Abraham. Eh bien, le texte est très clair. Et Dieu éprouva Abraham. C'est une épreuve pour Abraham. Retenez bien ce principe, ce n'est pas du tout une épreuve pour Isaac. Vous avez dû remarquer, je reviendrai, que Isaac lui est prêt à ce qui est censé arriver si Dieu n'intervient pas. Il n'y a aucune allusion dans le récit à ce que Isaac résiste ou ait un doute. Ce que je veux dire, pour reprendre les termes de l'analyse, ce n'est pas une épreuve pour Isaac. Je vais tout de suite expliquer cela, ce principe. J'espère que personne ne va arriver en retard parce qu'il faudrait que je recommence. On n'a pas le droit de manger de la Torah par petits morceaux, comme dit le texte. J'avais peur que ça souffre. Et nous avons le texte qu'a analysé le Maharal dans son commentaire de la Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot qui dit « Asara Nisyonot Nigmasa Atamarim » Abraham, notre père, a été mis à l'épreuve de 10 épreuves. Et là, il sera de la 10e. Mais sauf à Asara. Mais Abraham, du coup, là, les a toutes surmontées. Il y a eu 10 épreuves que la Torah raconte. La première étant la sortie d'Ourkazdim. La 9e étant l'expulsion de Hagar et d'Ishmaël. La 10e étant l'Akedat d'Israël, je ne l'ai pas encore traduit. Et il y a deux enseignements là. Il fallait qu'Abraham traverse 10 épreuves. Il les a traversées, il les a surmontées. Véraman Bekoulam, il les a réussies. Léodia, c'est pour te faire connaître Kamahibato chez Abraham Avinu, le prix que Abraham a aux yeux de Dieu, puisque la Torah raconte ces 10 épreuves. Si vous vous référez donc à cette Mishnah, vous verrez la liste des 10 épreuves dans le commentaire de Rashi. Je ne vais pas trop prendre de temps. Je vous conseillerais, Michael Sharon, de l'étudier dans Derech Haïm, qui est le commentaire du Pirkei Avot du Maharal. Et alors, nous savons par une Gemara, qui est Sanhedrin, page 107b, que les trois patriarches ont été mis à l'épreuve, chacun dans l'ordre de sa vertu propre. Et il fallait savoir. Et c'est ça la difficulté, est-ce que Dieu ne le savait pas? On y reviendra, il fallait savoir si Abraham est capable d'être le tzaddik de la Midat HaChesed, Isaac le tzaddik de la Midat HaDin, et Yaakov le tzaddik de la Midat HaEmet. Deux signifie ce qu'il fallait savoir. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la mise à l'épreuve ici vient de la Midat HaDin, vient de Dieu qui réclame le rachat de l'être qu'il a donné en don à la création. C'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, c'est le créateur qui donne l'être a priori de toute acquisition de mérite, qui ne vient qu'a posteriori de la naissance. Et bouche à, je vais te donner une pastille. C'est la prise de la pastille. Et nous avons là deux expressions dans les attributs du Créateur, deux essentiels. Il y a 13 attributs de l'unité de Dieu. Les deux essentiels, c'est Dieu se révélant à travers l'attribut de la grâce absolue, de la charité absolue, de Chesed. C'est celui qui crée, qui donne, sans se préoccuper si celui qui reçoit le mérite. Ça, c'est le principe de Chesed. Et c'est ainsi qu'Abraham a connu le Créateur, comme Créateur dans le sens strict, comme celui qui donne la charité pure. Et la charité pure ne se préoccupe pas de savoir si elle porte sur des justes ou sur des brigands, je vais vous dire ça. Un exemple, pour qui Abraham va prier? Pour les pécheurs, le moins faible de Sodome et Gomorre. Ça, c'est Abraham. Pour savoir, pour comprendre comment Abraham vit sa relation au Dieu d'Abraham, eh bien, nous avons l'exemple des chassidim. Des chassidim étymologiques, pas les chassidim sociologiques. Dans toutes les communautés, il y a des chassidim, des hommes qui vivent cette vertu, la charité pure, absolue, tout est chesed. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps. Et alors, exact, lui, ce sera le tzaddik de la mida complémentaire et opposée, de la rigueur stricte, de la justice stricte. Isaac vient après Abraham. Il y a d'abord le niveau où je sais que j'ai reçu en grâce. Et puis arrive la maturité, la majorité de la conscience morale. Je découvre qu'il faut que je mérite en quoi que ce soit. J'ajoute en quoi que ce soit à ce que j'ai reçu en grâce. Ça, c'est le stade Isaac. Isaac vient après Abraham. Et il ne faut pas oublier Abraham. Grande difficulté de la foi juive, c'est l'unité de ce Dieu dont on parle en disant qu'il est premièrement Dieu d'Abraham, deuxièmement Dieu d'Isaac. C'est clair jusque-là? J'ouvre une petite parenthèse pour montrer à quel point la controverse avec les théologiens chrétiens sur ce point est à l'envers complètement. J'irai jusqu'à dire que c'est l'exemple type, mais tout est ainsi dans cette controverse, tout est à l'envers. Pour les chrétiens, il y a d'abord le temps de la loi à travers laquelle on mérite, et ensuite vient le temps de la grâce. Le judaïsme serait préhistorique au christianisme. Il y a d'abord l'éducation, comment dire, l'éducation, la loi comme pédagogue, si vous voulez. Et puis après, alors la majorité, la maturité de l'expérience religieuse serait la grâce. Dans l'histoire des patriarches, c'est l'inverse. Il y a d'abord le temps de la grâce, et ensuite, le temps de la maturité, on se mesure à la loi pour mériter ce qui avait été reçu par grâce. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je vous mets un petit exemple. Quand j'ai fait mes études d'ethnologie, parce que j'ai fait aussi ça, et j'ai surtout étudié une monographie des rites religieux au Congo, à l'ex-Congo belge. Et j'ai dû étudier des correspondances entre les missionnaires belges et leurs évêques sur le fait qu'il y a beaucoup de Congolais qui voulaient convertir au christianisme, tenaient à garder des rites de chez eux, dont la circoncision à leur manière. Et alors, c'était un problème très difficile. Ils pouvaient admettre de christianiser n'importe quel rite, sauf des rites qui étaient dans la Torah, dont la circoncision. Et alors, moi j'étais étudiant à Paris, on en avait quand même des sabnaot, enfin des, comment dire, des ateliers. Et une fois, nous avons eu un missionnaire belge en chair et en os. Je lui ai demandé, mais dites-moi, écoutez, quand vous convertissez un païen, est-ce que vous le convertissez d'abord au judaïsme et après au christianisme? Vous le convertissez d'emblée au christianisme? Il n'a pas su me répondre. Okay. Alors, c'est là qu'on a eu un dialogue très amical d'ailleurs, mais j'ai complètement interloqué de se rendre compte de cela. C'est dans cette controverse, l'ordre est inversé. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a d'abord Abraham, et ensuite. C'est d'autre part pas facile. Lorsqu'on vit l'expérience de la relation de Dieu d'Isaac, de ne pas risquer d'oublier l'expérience de la relation de Dieu d'Abraham. Si je vis cette terreur, Pachad Yitzhak, cette terreur d'Isaac de savoir qu'il doit payer, n'oubliez pas, qu'il doit payer le prix de son maître, on risque de ne plus comprendre, de ne plus vivre la ferveur promise à Abraham d'avoir reçu en grâce cet être qu'il faut d'autre part racheter. Est-ce que c'est clair cette indication? Mais tout ceci pour dire que pour Isaac, il y a aucun problème. Le jour est venu pour Isaac d'avoir racheté l'être qu'il avait reçu en grâce. C'est la minostadim éprouvant Yitzhak. Eh bien, son épreuve n'est pas une épreuve, si j'ose dire. Est-ce que c'est clair, ce sujet-là? Et effectivement, le seul prix à payer pour le rachat de l'être, c'est l'être lui-même. Et par conséquent, Isaac est prêt à rendre son être, lorsque le moment est venu, de le racheter. Et le secret de cet enseignement, c'est que Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure, mais qu'Isaac soit prêt à accepter d'être sacrifié. Et dès qu'il est prêt à accepter d'être sacrifié, l'ange vient arrêter le bras d'Abraham. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, l'épreuve était dans la mise à l'épreuve. Là, je mets une parenthèse. Est-ce que Abraham, et le Midrash fait allusion, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, est-ce qu'Abraham, Isaac, ne savait pas que ce Dieu, un, celui qui donne, mais qui demande le rachat. Est-ce que ce Dieu n'est pas le Dieu monstrueux des sacrifices humains? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'inévitablement, avant la fin de l'épreuve, Dieu va intervenir pour arrêter l'épreuve? Eh bien, là, je voudrais, faire appel à ceux qui ont ces expériences-là, en tout cas la génération de la guerre, la génération de la Shoah, même ceux qui n'ont pas vécu ce temps-là, ce que vous en savez. Et lorsqu'on est dans une épreuve de cet ordre, je me réfère vraiment à l'époque de la Shoah. À l'époque de la Shoah, oui, pour le peuple juif, il y a eu une interpellation d'épreuves très très parallèle à ce qui se passe là pour Isaac. Je dis bien pour Isaac, pour Abraham, c'est un autre type d'épreuve. De se rendre compte que tout est là, jusqu'à la solution finale. Et que malgré tout, il y a la foi que Dieu est un Dieu sauveur. Et ce sont là deux convictions. Celle qui vient de la réalité de l'existence, c'est la fin. Et puis celle qui vient de la foi, on sera sauvé quand même. C'est contradictoire. Eh bien, nous avons eu cette expérience-là pendant le temps de la Shoah. Nous savions que nous serions sauvés par la foi. Mais qui sera sauvé? Ça, c'est le mystère de la destinée individuelle de chacun. Et pourtant, la réalité était qu'il n'y avait pas de salut possible. Les deux choses étaient vécues, je ne dirais pas indépendamment d'une ou de l'autre, mais en même temps. C'est-à-dire, l'épreuve est vraiment une épreuve. C'est-à-dire, ces tourments de l'épreuve, de savoir qu'il n'y a pas d'issue, on l'a vécu comme s'il n'y avait pas de salut possible. Et pourtant, d'autre part, il y avait la foi du salut. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, c'est clair à l'échelle collective du peuple juif, bien sûr. À l'échelle individuelle, ceux qui ont disparu dans la Shoah, ont disparu dans la Shoah. Et c'est pour on les appelle, ceux qui sont morts et qui nous cherchaient. Mais j'ai indiqué cela pour essayer de faire comprendre pourquoi pour Isaac, c'est pas une épreuve. Lui, il est prêt. Et je crois que tous ceux qui sont allés au martyr dans l'histoire des hommes, qu'ils soient juifs ou non, tous ceux qui sont allés au sacrifice, avec cette joie du sacrifice, montrent, il y a aussi la caricature avec les kamikazes du Hamas, mais montrent que c'est pas une épreuve, ça fait comprendre que c'est pas une épreuve, ils sont de l'ordre de l'Amida de Yitzhak. Je ne sais pas si c'est clair. Et il faut être dans ce cas pour expérimenter vraiment de quoi il s'agit. Simplement, je vais expliquer pourquoi lorsqu'on lit ce récit, on s'aperçoit que c'est pas du tout Isaac qui est interpellé dans cette histoire, il est prêt. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, il est clair que l'épreuve, c'est pour Abraham. Là, je vais vous expliquer rapidement, en me référant à cet enseignement qu'il y a dans Sanhedrin, page 107b, qui pose deux questions, je prendrai une seule. Pourquoi le texte de la Torah n'a raconté explicitement que les épreuves d'Abraham et les épreuves d'Isaac et les épreuves de Jacob, c'est par allusion qu'on les induit du texte? Et ça, j'approfondirai pas trop, mais très, très rapidement, c'est le premier des patriarches. Et à partir du moment où lui, le premier, le point de départ, Abraham de Bahem, a surmonté ses épreuves, alors la généalogie qui mène à l'identité Israël émerge, se met en place. Et par conséquent, Isaac est second par rapport à Abraham, ça signifie pas secondaire, mais c'est Abraham qui est premier. Donc cette mise à l'épreuve de l'identité d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob. Et lorsqu'on arrive finalement aux épreuves de Jacob, c'est beaucoup plus haut, alors, et que Jacob a réussi, eh bien, il reçoit le nom d'Israël. Mais la deuxième question, c'est, est-ce que Dieu ne savait pas que Abraham était tzaddik, était capable de résister à une mise à l'épreuve de ce genre? Et en quoi consistait-elle pour Abraham, cette mise à l'épreuve? Et après, on abordera cette question de fond. Je vous donnerai l'explication du Maharal. Parce que Dieu ne savait pas. Parce que le verset, je vais vous dire quel est le verset qui pose la question, c'est lorsque l'ange arrête le bras d'Abraham et que Dieu lui dit, verset 12, premier verset 12, j'ai dit la bracha déjà. Le verset 12. Va yomer, il dit, Atishfar Yadecha Lamara, N'envoie pas ta main sur l'enfant. Il avait 33 ans. Certains disent 37. Il y a deux sources. Mais l'âge kabbaliste, si vous voulez, c'est 33 ans. Pas pour ceux qui ont étudié ces choses-là, ce qu'on appelle l'âge du corps glorieux. Je referme la parenthèse si vous ne savez pas de quoi il s'agit. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore 33 ans, méfiez-vous, à cet âge, il y a toujours un choc. Vous l'expérimenterez. Alors, voyons de l'élève. Altishlari Alecha. Et un Nara, Vertaraslo Mimma. Il ne lui fait rien. Ajoute une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? N'envoie pas ta main sur l'enfant, ça veut dire ne l'héberge pas. Et ne lui fait rien. Il y a un midrash extraordinaire qui dit que lorsque l'ange a dit à Abraham, n'envoie pas ta main sur l'enfant, Abraham a dit, mais toute cette épreuve pour rien, une petite blessure, qui est quelque chose dans la réalité. Et là, l'ange lui dit, l'attention de son humain ne lui fait rien. C'est-à-dire, il y a pour Abraham deux épreuves finalement. L'épreuve qui consiste à se décider à mener son fils au sacrifice, et l'épreuve qui consiste à sacrifier son sacrifice, c'est-à-dire à ne pas le faire. Et peut-être que la deuxième est encore plus dure que la première. Alors on dit, il faut un dégagement à toute cette affectivité, à cette ferveur, quoi que ce soit, on ne dit rien. Et regardez à quel point appeler ça le sacrifice d'Isaac, entre guillemets, est faux. Le sacrifice n'a pas lieu. Et par conséquent, prendre ce récit, d'une part comme modèle de la passion chez les chrétiens, d'une passion réussie, ça j'ai entendu le théologien chrétien me dire, que ce que vous savez a réussi ce qu'Isaac n'a pas réussi, c'est-à-dire être vraiment sacrifié. Et c'est une autre mentalité. Et puis, bien sûr, pour le salut du monde. Et puis, il y a des juifs qui parlent comme ça, que le monde aurait été sauvé si Isaac avait été vraiment sacrifié. Je ne veux pas vous donner de source, mais ça existe. Il y a des livres qui parlent comme ça. Ce n'est pas des livres de chez nous. Enfin, des livres juifs, mais ce n'est pas du même bêta-midrash. Et puis, alors ça m'a fait penser à autre chose. Donc, je parlais sur le fait que le sacrifice n'a pas eu lieu, et surtout de prendre ce récit comme modèle pour la Shoah, pour expliquer la Shoah, parce que le sacrifice n'a pas eu lieu. Alors que pour la Shoah, le sacrifice a eu lieu pour 6 millions de Isaac. Et comme disait, je crois, Elie Wiesel, l'ange a été 6 millions de fois en retard. C'est bien Elie Wiesel qui disait ça, au moment de la Shoah. Donc, je referme cette parenthèse. Et le verset qui pose notre question, c'est Atayadarti. Maintenant, je sais qui Yéré Elohim Ata, que tu es Yéré Elohim. Mais d'après les Tahamim de la Masoret, regardez bien, on peut lire autrement. Maintenant, je sais, parce que tu es Yéré Elohim. Qui peut se traduire soit par que, je sais que, ou je sais, virgule, car tu es Yéré Elohim. Alors, je sais quoi? C'est là la question que Gemara va poser. Est-ce que Dieu ne savait pas déjà? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, je sais? J'ouvre, c'est clair, la question? J'ouvre une parenthèse, et je ne serai pas trop longue, parce que ça renvoie à une réédition de la yeshiva du Gaon de Vilna, où c'est dans les préfaces que le Rav Chaim de Volozhin a consacré au Gaon de Vilna, où il cite une des opinions sur ce verset et qu'il critique tout de suite. Mais je veux d'abord vous expliquer l'opinion qui expliquerait cela. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, je sais que tu es Yéré Elohim, parce que toi tu es Yéré Elohim. Dis ceci. Toutes les qualités, toutes les vertus, alors c'est d'abord la thèse, mais ensuite la critique de la thèse. Toutes les vertus, nous les apprenons de la révélation de Dieu dans le monde. Comment être charitable, nous apprenons de Dieu lui-même, comment il est charitable. Et il y a des Midrashim, nous l'a rappelé, qu'il a habillé ceux qui étaient nus, le premier homme, et s'est occupé de la mort de Moïse, etc. Et à travers les grands hommes qui ont été les justes de ses vertus. C'est depuis Abraham qu'on sait qu'est-ce que c'est être charitable. Mais Abraham est censé l'apprendre de Dieu lui-même. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais toutes ces démonstrations à la lettre de ce principe existent. C'est la même, c'est la vertu que, pour laquelle c'est l'inverse. C'est Dieu qui doit la prendre de l'homme, parce que l'homme ne peut pas la prendre de Dieu. Cette vertu-là consiste à être craignant Dieu. La thèse semble très forte. Il y a une vertu que Dieu peut enseigner aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être craignant Dieu? Et par conséquent, il faut attendre qu'un homme exemplaire ait cette vertu de craignant Dieu pour que Dieu sache qu'est-ce que ça veut dire être craignant Dieu. C'est une explication juive. Et alors, le Rafraim de Volozhin critique ça. Il dit, et puis la source est dans Tomer de Bora, du Ramak, de Rabbi Moshe Chordovero, qui l'a bien expliqué dans Tomer de Bora. Il dit, Dieu aussi possède cette vertu. Et c'est cela qu'on appelle El Shaddai. Alors qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Il y a dans le Midrash Dieu Tout-Puissant qu'on traduit. Dans le Midrash, trois explications de Dieu Tout-Puissant. Deux que je vous cite très rapidement, parce que c'est la troisième qui va nous occuper. El Shaddai, c'est Meshaded et Amaralachot. Ça veut dire Dieu qui est capable d'être plus fort que le monde qu'il a créé. Alors il peut intervenir pour changer les règles du jeu dans le monde, ce qu'on appelle le miracle. Dieu est capable de faire un miracle. C'est un peu cette signification qu'on retrouve dans la traduction banale de tout-puissant. Parce que c'est pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire de Dieu qui est tout-puissant? Est-ce qu'on pourrait supposer qu'il y aurait quelqu'un de plus puissant que lui? Je ne sais pas si vous comprenez le difficile problème des attributs. Maïmonide a beaucoup utilisé ça. Alors, il se dit, il est plus puissant en la limite que lui-même, que sa volonté lorsqu'il a créé le monde. Il a créé le monde, lui, avec un certain ordre, il peut changer cet ordre. Ça, c'est Meshadel Tamarach. Et être plus puissant que quelqu'un d'autre, c'est pas ça la puissance, c'est que l'autre est plus faible. Mais être plus puissant que lui-même, ça, c'est la vertu de la vaillance. Le véritable Gibor, c'est celui qui est plus puissant que lui-même. Vous avez bien compris. La deuxième explication du Midrash, c'est Mi Sheyeshlo Dai, celui qui a suffisamment pour donner. Une des définitions du Créateur, il a suffisamment Dai, et donc il peut accomplir les promesses qu'il a faites. Là aussi c'est difficile, c'est Dieu qui promet. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Mais c'est encore un autre sujet. Pour revenir à la troisième explication, c'est Misha Amar le Lakuto Dai, Velaholamo Dai. C'est celui qui a dit à son monde jusque-là et pas plus, et à sa divinité jusque-là et pas plus. Il y a une limite au-delà de laquelle Dieu s'interdit d'intervenir dans le monde. D'une certaine manière, il a Irat Shamaïm pour sa créature. La Irat Shamaïm de l'homme à Dieu, c'est le respect des valeurs. Les valeurs sont exposées, elles ne sont pas protégées, elles sont vulnérables, c'est le mot que je cherchais. Et parce que nous sommes libres de les violer. Et alors cette force qui consiste à ne pas violer une valeur qui est exposée, c'est ça Yirat Shamaim, Yirat Elokim. Je dis Yirat Shamaim, c'est un peu au-delà, mais Yirat Elokim, ça va dans le même sens. La Gemara dit, en utilisant un verset de Shir HaShirim, pour dire la vertu des tzadikim en Israël, c'est l'expression Suga Bashushanim. C'est une jeune femme qui n'est protégée que par une ceinture de rose et elle n'est pas violée. C'est ça la vertu du tzadikim. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée qu'il y a dans ce commentaire. Là, je reprends la formule qui me paraît la plus simple. La loi de la nature protège la nature. Si je viole une loi de la nature, eh bien, j'en paye les conséquences. Mais la loi morale n'est pas protégée. Les valeurs de la loi morale ne sont pas protégées. À la longue, la loi morale sanctionne. À la longue. Mais c'est très dur. C'est très différent que la loi de la nature. Dans la loi de nature, la sanction est immédiate. Alors pour la loi morale, c'est en fin de compte que la sanction apparaît. Et entre-temps, eh bien, la valeur morale est exposée. On peut la violer. Irat Elokim, c'est la crainte de violer la valeur. Est-ce que c'est clair? Vous tous les niveaux de la... Il y a la crainte du châtiment, la crainte du péché. Et alors, la crainte du péché, c'est à ce niveau de l'hératologie. La crainte de faire le péché. Je veux dire, la crainte de faire une faute. Avoir peur de faire une faute. C'est au-delà d'avoir peur du châtiment de la faute. Je veux dire, c'est clair. Avoir peur du châtiment de la faute, c'est déjà une vertu. Parce qu'il y a des criminels qui n'ont pas peur du châtiment. C'est pourquoi il y a des fautes. Mais il y a une vertu encore plus haute. Avoir peur de faire une faute. Est-ce que c'est clair? Donc, et alors, c'est cela de quoi je parlais. Oui, je pense à autre chose. Quel était le sujet? Ah oui, Atayalan. C'est Irad Irachabri. C'est que Dieu se donne lui-même cette limite d'Aï et la couteau qui ne dépasse pas pour que le monde puisse subsister. Si Dieu ne réprime pas l'absolu de son être, alors le monde disparaît. Alors il y a entre Dieu et le monde, c'est une figure symbolique, une limite qui s'appelle El Shaddai. D'ailleurs, est-ce que c'est clair maintenant? Voilà comment dans le Torah Paniglé, et ça c'est le Hari qui l'a expliqué, on retrouve ça. Nous avons une Mishnah qui dit Ezeu Libo, Akobesh et Ditzko. De qui on peut dire qu'il est vaillant? C'est de celui qui maîtrise ses penchants. Comme j'ai dit tout à l'heure, être plus fort qu'un faible, c'est que l'autre est un faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit de Dieu qu'il est vaillant, Atagibor, ça veut dire qu'il est plus fort que lui-même. Il réprime son absolu pour laisser la place à l'existence relative du monde. Cette frontière s'appelle El Shaddai. Et dans cette frontière, il y a en Dieu la vertu corollaire de Yirat Shamaim chez l'homme. Dieu a peur de faire du mal à son monde. Alors il se retient de l'envahir. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vous rappelle qu'à cela, une remarque qu'il faut faire, c'est que chaque fois que la Torah raconte une intervention de Dieu dans l'histoire, avant la fin des temps de l'histoire, avant le rendez-vous de la fin des temps, c'est une catastrophe. Lorsque Dieu est obligé de faire irruption dans le monde, c'est une catastrophe. Et je vous laisse le soin d'identifier les expériences que vous avez à ce sujet. Mais l'exemple le plus massif, c'est les 10 plaies d'Égypte. Il faut intervenir pour sauver Israël. C'est une catastrophe pour une civilisation entière qui disparaît. Ce qu'a été l'Égypte des pharaons. Je me réfère surtout derrière à l'immense catastrophe du déluge. Mais vous avez là des modèles qui éclairent bien cela. Lorsque Dieu décide de franchir ses frontières du El Shaddai, pour les raisons pour lesquelles il faut qu'il les franchisse, c'est une catastrophe. Alors nous sommes à l'abri de ces catastrophes de chaque instant en chaque instant. Parce qu'à la fin des temps, c'est cette force El Shaddai qui travaille. C'est clair. Dans la religiosité populaire, je veux dire comment, ce que j'ai connu surtout chez les Sfaradim, mais je pense que chez les Ashkenazim d'ailleurs, quelque chose d'analogue, chaque fois qu'il risque d'y avoir une catastrophe, alors, la réaction immédiate, c'est de dire Shaddai. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Certains disent Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça revient même. Ça veut dire qu'on invoque cette force de la limite entre eux, la toute puissance de Dieu et le monde dans sa relativité. Je ne sais pas si les Ashkenazim, vous avez une expression je crois dans la politesse des Israélites français, Dieu préserve. Donc, c'est le même sens. C'est vraiment le même sens. Mais, donc, je referme cette parenthèse, et c'est Raphaël de Volodine qui nous a donné cette enseignement, ceci dit, la question reste.